7h36 minutes, on sera en mesure de se brancher avec Luc Laliberté, chroniqueur politique américaine, dans les prochaines secondes. Juste avant, on va aller voir ce qui se passe sur la route. Comment ça se passe?
C'est dans la moyenne, je te dirais, heure de pointe normale du mercredi, Capitale Ouest, entre Seigneurial et Laurentienne à peu près. Quelques petits problèmes sur Laurentienne Sud par bout entre Jean Talon Est et Capitale. Capitale Est, il y a quelques problèmes qui sont peut-être plus inhabituels pour le matin, là, entre le boulevard de l'Ormière et le boulevard Pierre-Bertrand. Pas tout le long, là, mais par bout, il y a un peu de rouge. Robert Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, ça c'est un classique. Henri IV Sud, ça s'est amélioré dans les dernières minutes, mais toujours un ralentissement hauteur de Chauveau-Ouest. Ce matin, c'est vraiment quand tu roules vers Shannon, dans le coin de l'entrée de la base militaire, il t'a un solide ralentissement et toujours au secteur des ponts, là, quelques petites complications.
Merci beaucoup. Donald Trump qui va s'adresser à la nation ce soir vers les alentours de 21h. On parle de nouvelles informations importantes à communiquer sur l'Iran. On a le plaisir d'en discuter avec notre chroniqueur politique américaine, Luc Laliberté. Salut Luc!
Hey, bonjour.
Merci d'être là. Est-ce que Donald Trump va nous apprendre vraiment de nouvelles informations concernant ce qui se passe en Iran? Puis, s'il décide de sortir comme ça, de façon impromptue, c'est-tu parce qu'il y a énormément de pression actuellement aux États-Unis pour qu'il finisse par régler ce conflit-là?
Écoute, il y a au moins deux grands objectifs. D'abord, c'est une première intervention face à la nation depuis le début de ce conflit-là. Le président, il répond souvent aux questions. Aux États-Unis, on appelle ça le « chopper talk ». Donc, il est sur le bord d'embarquer sur Marine One, qui est l'hélicoptère présidentiel. On entend tourner les pales de l'hélicoptère. Oui, il fait ça en montant à bord d'Air Force One. Ce soir, donc, il prend la peine de parler à l'ensemble du pays. Et il y a effectivement, je pense, deux grandes choses à surveiller. D'abord, le président dit « Nous allons mettre fin à ce conflit-là d'ici 2 à 3 semaines. » Moi, j'ai beaucoup de questions, puis un doute en partant. Il nous a dit beaucoup de choses, le président, depuis un mois. Et souvent, ben, il disait le contraire le lendemain, où il ajoutait une nuance très, très, très importante. Donc, j'ai hâte de voir comment il va expliquer qu'on se retire à ce moment-ci. C'est-à-dire qu'on est capable de dire « Dans 2 ou 3 semaines, on ne sera pas là. » Et c'est très clair qu'il y a un prix politique et économique à payer pour le conflit iranien. Le prix politique, tu viens de le souligner, non seulement on pouvait s'attendre à une opposition démocrate, c'est le parti de l'opposition, on ne s'attend pas à ce qu'il joue le jeu du président. Donc, mais dans les sondages, le président, bien sûr, a donc les démocrates qui sont contre lui, mais beaucoup plus important au plan de la stratégie politique, il perd les indépendants, il perd les indécis, et il perd une partie de sa base à lui. Un peu plus tôt cette semaine, je vois Jeff dans mon écran, on discutait ensemble tous les deux justement de ce qu'on appelle les jeunes MAGA, les jeunes partisans, le loyaux, les jeunes hommes que le président a gagnés avec Joe Rogan, avec un certain nombre d'influenceurs, avec Charlie Kirk, entre autres. Donc, ces gens-là sont déçus. Pas tous, mais pensez calcul électoral. Le président ne peut pas se permettre de perdre sa base s'il perd les indécis, les indépendants et des républicains qui se reconnaissent moins dans le parti. Donc, il y a tout ça ce soir. Moi, je veux surveiller comment vous sortez de là dans l'état actuel des choses. Donc, ça sous-entend quels étaient vos objectifs. Est-ce qu'ils sont tous atteints? Parce qu'on sait que l'objectif de la sécurité nationale, c'est-à-dire l'imminence d'une attaque iranienne, les services de renseignement américains ont dit qu'il n'y avait pas d'attaque imminente. Donc, c'était quoi les autres objectifs et les avez-vous atteints? Puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'on dit à des Américains qui ont voté contre la guerre, qui ont voté pour une économie qui allait mieux? C'est ce qu'on reprochait surtout dans les perceptions, en tout cas à Joe Biden. Maintenant que le gallon d'essence aux États-Unis a atteint 4 $ en moyenne, on leur dit quoi à nos concitoyens pour pas sacrifier le vote républicain pour les élections de mi-mandat?
Est-ce que ça va être facile de redresser son niveau de popularité? Parce qu'actuellement, quand on regarde les derniers sondages, on s'aperçoit que c'est un président qui est mal aimé. On est autour de quoi?
36 %.
Si on se fie à l'après-élection, il était autour de 47 %. Puis avec ce qui se passe, on peut présumer que ça va continuer de descendre jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils réussissent à relever la barre. Mais est-ce que tu as bon espoir qu'ils puissent en faire peut-être un peu plus pour qu'arriver à mi-mandat, aux élections de mi-mandat, ils soient capables de faire bonne figure?
En élection, on dit souvent, quand on prépare une année électorale, que les électeurs ont souvent la mémoire courte. Il nous reste quand même plusieurs mois avant l'échéance électorale. Ce qui m'inquiéterait si j'étais un stratège républicain, c'est la totalité des dossiers, l'ensemble de l'œuvre. Est-ce que Donald Trump a vraiment livré aux Américains ce qu'il avait dit qu'il leur livrerait? Et c'est là où tous les indicateurs pointent dans la mauvaise direction. Il peut y avoir des imprévus. Il pourrait y avoir un bon coup de Donald Trump qu'on parvient vraiment à vendre comme un bon coup. Mais quand on observe ce qui s'est passé, le fameux Doge puis l'efficacité gouvernementale, c'était pas au rendez-vous. La question de l'immigration. Les Américains voulaient qu'on s'attaque sérieusement au problème de l'immigration et de l'immigration illégale. Si on regarde les sondages, Donald Trump pourrait crier victoire, lui, pour sa politique migratoire. On ne discutera pas de comment il le fait pour tout de suite, mais il peut dire, oui, regardez les chiffres, j'ai fait la job. Par contre, les Américains sont très, très, très étonnés et déçus des façons de procéder. Le fameux Joe Rogan auquel je référais tout à l'heure, c'est un indicateur souvent hein, du mécontentement ou de l'appui de la population. Lui, il a débarqué du train Trump. Il a dit, moi, je ne m'attendais pas à ça. Vous avez tiré sur des Américains en prétendant lutter contre l'immigration illégale. Donc, quand on regarde l'ensemble des dossiers, l'immigration, l'économie, la guerre, il semble que Donald Trump aille en sens contraire de ce qu'il s'était engagé à faire. Il y a des perceptions là-dedans. Ce ne sont pas toujours les faits ou la réalité. Mais Joe Biden a été battu en partie aussi par les perceptions d'une mauvaise gestion économique. Ça fait beaucoup de choses qu'il faut revirer de bord en bon québécois pour que les républicains s'imposent à la Chambre. Tous les indicateurs pointent vers une défaite à la Chambre des représentants. Et ce qu'on pensait pouvoir préserver le Sénat, c'est maintenant en jeu. Si je suis Donald Trump, c'est inquiétant. Les républicains, bien sûr, les stratèges républicains. Mais si je suis Donald Trump, je fais comment pour gouverner ce pays-là? Barack Obama s'est posé la même question. Si je n'ai pas les deux jambes de mon côté, il y a des chances qu'on stagne, il y a des chances qu'on bloque. Ça risque d'être 2 dernières années difficiles pour un président qui est pas loin de battre des records historiques d'impopularité. Le 36%, là, on est au plan historique particulièrement bas, faible.
Ouais, donc, il va nous annoncer qu'il va réussir à régler le problème de l'Iran dans quelques semaines. Est-ce qu'on va parler un peu du Venezuela? Est-ce qu'on va parler un peu de Cuba qui est en train de se mourir, là?
C'est pas impossible qu'on parle de Cuba. Le Venezuela, je suis pas sûr que le président veuille aller là ce soir. Pourquoi? Parce que là aussi, il nous a dit, grosso modo, entre guillemets, la formule consacrée, mission accomplie. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses sur le terrain au Venezuela? On en a beaucoup parlé. Et l'opération qui a permis d'aller chercher Maduro, elle est spectaculaire. C'est un peu comme l'Iran. Les soldats ont fait la job. Les troupes américaines ont fait la job en Iran. On a fait ce qu'on nous a demandé de faire, puis on l'a fait de manière très efficace. Le problème, c'est au plan politique. Et donc, quand je regarde le Venezuela, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose? Pas certain que je veux un bilan là de la part du président. Par contre, Cuba, le président lui-même est revenu sur le sujet à quelques reprises. On a dit finalement, Cuba, ce sont les prochains. Il a même ouvert la porte récemment en disant, il y a un pétrolier russe là, qu'on va laisser entrer à Cuba parce qu'on a gagné de toute façon. Puis, grosso modo, pour à des fins humanitaires, on va laisser entrer le pétrolier russe. Les Russes, tiens, juste une toute petite parenthèse. C'est fou comme ils tirent avantage de cette présidence-là depuis le début. Quand je parle de l'Iran, le gagnant, si je vois un gagnant, moi, du conflit iranien à court terme, c'est la Russie. La Russie qui vend son pétrole plus cher, c'est un producteur de pétrole. La Russie qui bénéficie d'un allègement des sanctions américaines pour vendre son pétrole. Puis en même temps, il regarde le conflit ukrainien dont on ne parle à peu près plus. Et le président américain qui dit, ben, le matériel qu'on allait envoyer en passant par l'OTAN, mais qu'on allait envoyer en Ukraine, on va l'envoyer en Iran. Zelensky s'est plaint cette semaine, je pense avec raison, là, pas se plaignait tant qu'il disait regarder la situation sur le terrain. Mais donc, tout ça pour dire, on voit aussi que pour ce qui est de Cuba, les Russes peuvent quand même vendre du pétrole malgré l'attitude des Américains. Mais oui, Cuba est dans une impasse. C'est une population qui souffre depuis très, très longtemps. Et on verra jusqu'à quel point on est prêt à intervenir ou même intervenir militairement du côté américain. Mais je ne l'exclurai pas pour ce soir.
Luc, tu parlais d'immigration tout à l'heure
Oui.
devant la Cour suprême. Le droit au sol va être débattu.
On sait, c'est un dossier qui a fait énormément jaser, c'est-à-dire des enfants d'immigrants illégaux, mais qui sont nés en sol d'Américains et qui auraient le droit à la citoyenneté américaine, là, selon la Constitution.
Voilà, écoute, ça, c'est pour des maniaques de politique comme moi, puis pour quelqu'un qui a enseigné la Constitution. Ça a l'air froid puis aride, mais ça a plein d'implications bien concrètes. La Cour suprême, aujourd'hui, elle commence à entendre les argumentaires sur un décret de Donald Trump. Que dit Donald Trump? Finalement, le 14e amendement à la Constitution, là, qui valide ce que toi, tu viens de dire, et ce que je défends aussi, c'est depuis presque toujours, quand on est dans l'histoire, on fait 400 ans d'histoire, mine de rien, aux États-Unis, entre autres, parce que je remonte à l'époque coloniale, on a toujours dit quand on est dans un pays, on en devient citoyen. On peut être pour ou contre. En histoire, on a pas mal toujours dit ça dans les pays occidentaux. Et les Américains ont pris la peine de mettre ça dans leur constitution après la guerre de sécession. Donc là, Donald Trump dit, puis on l'a réaffirmé, je ne vous donnerai pas un cours de droit constitutionnel, mais en 1898, la Cour suprême est venue valider l'interprétation qu'on vient de faire tous les deux. Tu nais aux États-Unis, t'es citoyen, sauf si vous êtes des enfants de diplomates. C'est pas parce qu'on a travaillé comme diplomate aux États-Unis puis qu'on y a eu des enfants qu'ils sont américains. Ou encore, ben, vous êtes un ennemi des États-Unis, donc vous n'obtiendrez pas la citoyenneté. Mais là, Donald Trump, dans son décret, dit, lui, ça fonctionne pas. Les migrants illégaux ne sont pas soumis à la loi américaine. Et en plus, ça ne s'appliquait qu'aux esclaves après la guerre de sécession puis aux enfants des esclaves. Il n'y a personne au plan juridique, dans des décisions, chez les experts, au Constitution Center, qui est à Philadelphie, le centre de la Constitution, personne ne va dans ce sens-là. Donc, moi, je vais observer ça. On peut être pour ou contre cette idée-là, ou peut-être qu'on se dit ça a fait son temps, l'immigration illégale, il y en a partout. La question n'est pas là. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que des juges pourraient vraiment donner raison à Donald Trump? Mm-hmm. Et ça va être majeur. Si on parle de coûts humains, ceux qui défendent les droits des migrants parlent de 5 millions d'enfants dans les dernières années qui seraient touchés par cette décision-là. 5 millions d'enfants, c'est presque la moitié du Québec là, qui perdrait son statut.
Mais on donnerait pas une clause grand-père?
C'est pas dans les cartons. En tout cas, les avocats de la Maison-Blanche, les avocats de Donald Trump n'ont pas ça. Maintenant, la Cour suprême, moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Les arguments du président ne m'apparaissent pas très forts. Peut-être que je me trompe. Peut-être que les juges de la Cour suprême vont décider d'y aller autrement. Mais ce que la Cour suprême pourrait faire, et ça, elle le fait souvent, cette Cour-là, dans sa composition actuelle, c'est de dire « on ne tranchera pas sur le fond ». 14e amendement, on n'y touchera pas. Ce qu'on pourrait dire, c'est « c'est pas au président tout seul à décider ça ». Et ça, Donald Trump s'est fait répondre ça assez souvent. C'est-à-dire que, et là, c'est intéressant, cette présidence-là, pour moi, parce que Trump, il teste toutes les limites. Et ça se peut que la Cour suprême revienne lui dire « Désolé, Monsieur le Président, mais votre décret, là, c'est pas vous qui décidez ça tout seul, c'est plus complexe que ça, il y a plus de pouvoir que ça aux États-Unis. » Si on était dans une période, entre guillemets, normale, je te dirais, la Cour suprême va dire au président, le 14e amendement, il dit clairement que ces gens-là sont des citoyens américains. Donc, il faudrait amender la Constitution si on veut changer ça. Okay. Donc, c'est un dossier qui est intéressant. C'est riche au plan théorique, mais ça va avoir plein de retombées dans la vie de tous les jours, dans la vie pratique de millions de personnes.
À suivre. Merci beaucoup, Luc Laliberté.
Une bonne journée.
Salut Luc. Bye bye, bonne journée, bonne semaine, puis bon congé de Pâques. Luc Laliberté, qui est chroniqueur politique américaine et producteur des capsules sur les médias sociaux La Liberté en clair. Si vous avez des questions ou encore si vous avez quoi que ce soit à nous mentionner par rapport à ce qui se passe sur la route, parce que je dois faire une pause, 418-971-1021, 418-971-1021, c'est par texto. Max!
C'est vraiment le bordel sur route de la Bravo, là, Henri IV plus haut, quand tu roules vers Shannon, direction nord. Là. Je sais pas ce qui se passe dans ce coin-là, mais clairement, il y a quelque chose. Sinon, sur Henri IV sud, on est revenu comme dans la moyenne là, entre Sainte-Geneviève et Chauveau-Ouest. Capitale-Ouest, c'est difficile à partir de mi-chemin entre Beau-Royal et Seigneurial jusqu'à Laurentienne. Capitale-Est, il y a des problèmes à partir de Pierre-Bertrand jusqu'à Boulevard Masson. Robert-Brassard-Sud vers le boulevard Le Bourgneuf au rouge. La 40-Est, quelques petits problèmes dans le coin d'Henri IV et de Duplessis. Et les ponts, encore des petits ralentissements pour passer de la rive sud à la rive nord.
Pour nous informer de ce qui se passe dans la circulation ou le...